18h27, un petit peu plus tôt à l'émission, on avait en studio avec nous du Parti conservateur du Canada, Gérard Deltel. Et comme vous le savez, ici à l'émission, on aime vous présenter... J'aime pas juste dire les deux côtés de la médaille, parce qu'il n'y en a pas juste deux en politique.
Ouais, exactement.
C'est tous les côtés.
Quoique présentement.
Ouais, c'est ça. Ouais, quoique présentement, c'est peut-être plus deux côtés de la médaille si on se fie...
Ouais, on est dans une course à deux. Au Québec, peut-être à trois. Là, on avait quand même Simon Bérubé du bloc hier.
C'est vrai. Donc, fait que finalement, les trois côtés du triangle.
Exactement.
Allons-y comme ça.
Je vais le dire comme ça. Les trois partis les plus populaires présentement au Québec... Son passage en Rage Against le matin dans les deux derniers jours.
Joël Lightbound est avec nous en studio, qui est candidat sortant pour le Parti libéral du Canada, circonscription de Louis-Hébert. Monsieur Lightbound, bon mercredi matin.
Bonjour, merci pour l'invitation, je suis content d'être là.
Ben, merci d'avoir accepté l'invitation. Et de ce que je peux comprendre, vous êtes ami avec quelqu'un qu'on entend régulièrement à Rage Against le matin, Farnell Morissette.
Oui, j'espérais même le croiser peut-être ce matin, mais je pense que c'est pas le cas pour aujourd'hui. Mais oui, c'est un ami de longue date, Farnell. On s'est rencontrés au cégep Saint-Laurent. Et il avait été candidat à la présidence du cégep contre moi. Après l'élection, on a mis la hache de guerre derrière nous. On est allé prendre une bière.
Qui a gagné?
J'ai gagné l'élection.
Okay.
Mais Farnell a fait une chaude lutte. Mais après, on est allé prendre une bière. Puis c'est devenu un de mes meilleurs amis. C'est comme un frère.
Est-ce que ça avait été un adversaire politique féroce?
Quand même, mais on fait meilleure équipe ensemble que contre.
Okay, ah, parfait.
Ouais. Tu veux dire, vous pouvez le mentionner que vous l'avez varlopé lors des élections.
J'oserais pas.
Okay. On va lui dire, nous autres.
Vous lui demanderez.
Parfait. Monsieur Lightbound, comment se passe la campagne électorale jusqu'ici?
Ça va très bien. Pour de vrai, j'en suis un peu à l'instar de M. Deltel, mais qui a un peu plus d'expérience parce qu'il était au provincial avant. C'est ma quatrième campagne électorale au fédéral. Puis il y a un engouement que j'ai pas senti dans les dernières campagnes. J'ai rarement vu ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de bénévoles qui se présentent au local, qui veulent s'impliquer, puis qui se sentent interpellés par ce qui se passe au sud de la frontière, qui veulent lever la main pour défendre le pays, puis qui voient en M. Carney la meilleure personne pour le faire. C'est que je sens cet engouement-là vraiment sur le terrain aussi. Là.
Donc, un engouement double, un engouement vers la politique en raison justement de ce qui se passe avec les tarifs de Donald Trump, et un engouement envers le Parti libéral avec l'arrivée de Mark Carney.
Exactement. Avec le Parti libéral, je pense que à raison, plusieurs voient le Parti libéral de Mark Carney comme étant le meilleur parti pour défendre les intérêts du Canada. Puis ça les amène à vouloir s'impliquer. Puis je le vois pas seulement au niveau des bénévoles ou des citoyens que je rencontre sur le terrain, mais aussi des gens qui ont levé la main pour se présenter aux élections, devenir candidat du Parti libéral, qui n'avaient pas nécessairement l'intention de le faire. Même des fois du monde qui ont historiquement été plus proches du Bloc québécois ou même des fois du Parti conservateur, là, qui se disent le 29 avril, il faut que ce soit Mark Carney, le premier ministre du Canada, pour défendre nos intérêts.
D'ailleurs, parlons des sondages. Lorsqu'on regarde les sondages, le Parti libéral du Canada est en avance. Ça se passe très bien. Les chiffres sont de votre côté. Lorsque vous avez appuyé Mark Carney à la chefferie du Parti libéral, auriez-vous pu imaginer le résultat qu'on a en ce moment, un 2 avril?
Bien. Honnêtement, moi, je ne connaissais pas M. Carney avant de lui parler. Puis je lui ai parlé, j'ai eu des bonnes discussions, là, je dirais quelques heures de conversation avec lui pour en arriver à l'appuyer, parce qu'il m'est arrivé par le passé de me retrouver un petit peu, disons, en désaccord avec mon chef précédent, là, avec M. Trudeau. C'est que je voulais être sûr de ne pas rejouer dans ce film-là, puis être bien aligné avec M. Carney, c'est-à-dire avoir une vision de où on ressente le Parti libéral, où on est vraiment beaucoup plus axé sur l'économie, comment bâtir une économie qui est résiliente, qui est forte. Puis, en lui parlant, j'ai découvert que c'était loin d'être Michael Ignatieff, comme certains l'avaient présenté, là, un chef là, dans les années de 2011 à peu près, qui avait présidé à la pire défaite du Parti libéral, qui n'avait pas énormément d'instinct politique ni de charisme. Ce que j'ai découvert chez M. Carney, c'est que c'est pas Michael Ignatieff, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus terre-à-terre, facile d'approche, ouvert aux idées nouvelles aussi, puis on le voit avec le changement qui amène au Parti libéral. C'est que pour moi, ça me surprend pas tant. L'ampleur, oui, peut-être un peu, mais en même temps, quand je le vois aller comme premier ministre du Canada, ce qu'il a fait depuis qu'il est en poste, ça se justifie aussi.
Vous avez évoqué des désaccords avec votre ancien chef, Justin Trudeau, pour ne pas le nommer.
Oui.
Reste que Mark Carney est un conseiller de Justin Trudeau. L'équipe libérale reste sensiblement la même. Pour vous, est-ce que vous sentez vraiment un changement de par le simple fait que maintenant, le chef, c'est Mark Carney, puis qu'il a des meilleures idées à amener que Justin Trudeau, puis est peut-être un meilleur leader présentement?
Bien, c'est clair qu'au niveau des idées, quand on regarde, par exemple, l'élimination de la taxe carbone sur les consommateurs, pour moi, c'était rendu une politique qui était tellement polarisante puis clivante, c'est une bonne chose de revenir là-dessus puis de l'abolir. C'est la première chose qu'il a fait comme chef, d'abolir l'augmentation de l'inclusion sur les gains en capitaux aussi. C'est une bonne chose pour
donc les idées des conservateurs, dans le fond.
C'est bien certaines des idées des conservateurs, mais aussi des idées de libéraux qui sont un petit peu plus centre-centre-droit. Puis le Parti libéral, c'est une grande tente. C'est que oui, il y a eu du bon dans le bilan de M. Trudeau. Moi, je le vois dans mon comté, que ce soit l'allocation canadienne pour enfants, là, ça aide des milliers de familles ici à Québec. Le programme de soins dentaires, puis ça, c'est des choses que M. Carney garde et que M. Poilievre abolirait. Quand on parle au programme de soins dentaires, là, il ne s'avance pas, il prétend que c'est une vue de l'esprit, mais moi, il y a 9000 personnes, des enfants puis des aînés en 2024 qui sont allés voir un dentiste qui n'ont pas eu l'occasion de le faire pendant des années parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Puis là, on ouvre ça aux 18 à 64 ans. C'est énorme, ça, pour bien du monde qui nous écoute en ce moment, là, d'avoir accès à des soins dentaires. Ça peut faire une différence. Il y a quand même... Je pense qu'Arnie recalibre le Parti libéral, mais garde les bons éléments aussi là, qu'il ne faut pas sacrifier. Puis c'est ça qui est à risque avec l'élection de potentiellement de M. Poilievre.
Une des grandes critiques à l'égard du gouvernement de M. Trudeau était le déficit, 60 milliards de déficit dans la dernière année. On fait comment pour revenir à un équilibre budgétaire? Parce que ouf, le fossé est grand là, entre l'équilibre et le déficit actuel.
Ouais, ben par rapport au déficit, là, d'abord, il faut quand même prendre en considération que quand on regarde notre dette au Canada, il y a eu la pandémie qui a amené son lot de dépenses. Puis je pense, personne ne remet en question que le gouvernement devait être là pour soutenir les entrepreneurs puis soutenir les travailleurs mm-hmm. durant cette période-là. Mais ce que M. Carney propose, puis je pense qu'il a toute la crédibilité pour le faire parce que c'est lui qui a aidé Paul Martin à redresser les finances publiques, puis aider Stephen Harper aussi au début de son mandat, si bien que M. Harper trouvait que M. Carney était tellement bon qu'il l'a nommé comme gouverneur de la Banque du Canada. Ils ont même essayé de le recruter comme ministre des Finances pour le Parti
conservateur. Les conservateurs sont pas d'accord avec ça.
C'est factuel. On peut pas être en désaccord avec des faits. C'est que à ce chapitre-là, ce que M. Carney propose, c'est de dire qu'il faut arriver à un équilibre budgétaire opérationnel, c'est-à-dire que d'un point de vue des opérations du gouvernement, des dépenses courantes, on est en situation d'équilibre budgétaire, mais qu'il faut avoir une enveloppe pour des investissements qui vont amener de la croissance économique, amener des gains en productivité puis plus de prospérité pour le pays.
Monsieur Lightburn, est-ce que la qualité du français de Monsieur Carney est une problématique pour les libéraux?
Bien, d'abord, il est... Monsieur Carney, moi, je l'ai vu ici dans un rassemblement, là, dans le cadre de sa course au leadership, on avait fait un rassemblement.
J'étais là au carnaval.
Il y a eu au carnaval, mais avant ça, on s'est réunis aux Trois Brasseurs, puis son français est quand même très bien.
On a hâte de le voir.
Mais vous allez le voir. Il y a l'entrevue jeudi, 5 chefs, une élection à Radio-Canada, où il va être là, puis je pense que les gens vont découvrir que oui, son français n'est pas parfait, il ne prétend pas qu'il l'est. Je crois que vous allez voir une grande amélioration au fil du temps. C'est clair que ce n'est pas un Québécois, mais il y a un amour pour le Québec, pour la langue française, une ouverture. Puis quand on regarde son entourage, justement, puis ça, c'est une question que je me pose parfois quand je réfléchis à qui serait l'équipe de M. Poilievre. C'est dur de trouver une réponse. Lui-même, quand on lui demande son équipe pour le Québec puis pour le Canada, qui serait son ministre des Finances, ça, il y a bien de la misère à répondre. Quand tu regardes son entourage, on a François-Philippe Champagne, qui est ministre des Finances, de Mélanie Joly, ministre des Affaires extérieures, puis Dominique Leblanc, qui est responsable des relations Canada-US. C'est un trio de francophones, un Acadien, deux Québécois, qui sont là pour défendre les intérêts du Québec et qui ont l'écoute de M. Carney. Et moi-même, je peux vous dire que les canaux de communication avec Mark Carney sont très bons et qu'il y a une grande ouverture pour le Québec.
À Québec, on aime beaucoup notre capitale nationale. D'ailleurs, on l'a vu dans le débat autour des projets abandonnés par la CAQ cette semaine. Mark Carney, n'empêche, a retiré Jean-Yves Duclos du Conseil des ministres. Plus de ministres au niveau du gouvernement fédéral dans la capitale nationale. Est-ce qu'il va en avoir un après l'élection s'il est élu? Est-ce que ça va être vous? Est-ce que ça va être M. Duclos?
Moi, je spéculais sur la formation d'un Conseil des ministres. Je ne m'engage pas là-dedans. C'est la prérogative du premier ministre. Sauf que dans le contexte actuel, l'objectif de M. Carney, c'était d'avoir un petit cabinet qui est agile pour répondre à la menace tarifaire de Donald Trump. C'est un cabinet de transition, si vous voulez, là, pendant la période électorale aussi, comme on s'en allait en élection. Après, il y aura un conseil des ministres, mais qu'il y ait ou non un ministre dans la région de Québec, je peux vous assurer qu'on a tout l'appui et tout l'écoute de M. Carney, que ce soit moi ou M. Duclos. Puis je rajouterais qu'à deux députés avec Jean-Yves Duclos, on a réussi à en faire pas mal pour la région de Québec. Puis, tu sais, Je repense, là, moi, quand je me suis lancé en politique en 2015, je me disais, OK, si je peux accomplir ça là, dans ma carrière politique, je serai très heureux puis je dormirai bien. Je me disais, si on peut corriger l'injustice qui a vu le chantier Davy être exclu en 2011 par le gouvernement de Stephen Harper, alors que Stephen Blaney était ministre de la circonscription où se trouve le chantier Davy, on a exclu le chantier, on a envoyé tous les contrats à Irving et à Seaspan dans l'Est et dans l'Ouest. Mais ça, avec Jean-Yves Duclos, on a réussi à corriger cette injustice-là, ramener le chantier Davy dans la stratégie de construction navale. Puis on vient d'annoncer 3,5 milliards pour un brise-glace polaire. Le chantier bourdonne, puis c'est pas juste le chantier, c'est tous les fournisseurs, les entreprises qui l'entourent. Deuxième dossier, le pont de Québec. C'est dans mon comté, le pont de Québec, ça fait 30 ans que ça traîne ce dossier-là, sous des gouvernements conservateurs libéraux successifs. Avec Jean-Yves Duclos, à deux, on a réussi à faire en sorte que le gouvernement fédéral rachète le pont. Il n'aurait jamais dû le céder au CN en premier lieu, puis qu'on s'assure de son entretien puis de sa pérennité pour les 50, pour les 100 prochaines années. Puis la dernière chose, c'est le financement. Ça fait toujours bien jaser à Québec, là, tout ce qui est transport et mobilité.
Mais que oui.
Le fameux tramway.
Le fameux tramway, mais qu'on soit là depuis 2018 à la hauteur de 1,4 milliard pour financer le projet de tramway. Je sais qu'il est controversé, le projet de tramway à Québec, mais pour moi, ça n'a pas de sens que Québec soit la seule ville de cette envergure et de cette taille au pays qui n'ait pas un réseau de transport moderne. Pour moi, ça va améliorer la vie de tout le monde. Oui, les utilisateurs du transport en commun, mais aussi les automobilistes qui vont voir moins de congestion. Ça va permettre le développement aussi de notre ville, qu'on puisse penser au développement résidentiel qui serait sur la ligne du tramway. C'est des investissements majeurs là, du privé qui vont s'en venir si le tramway finit par voir le jour. Ce que je regrette, c'est que ça ait traîné aussi longtemps. Je veux dire, on revient à la première mouture de 2018 avec ce que la Caisse propose.
Mais ça traîne à cause de qui? La Ville, la CAQ, le gouvernement fédéral?
Pas le gouvernement fédéral, ça je vous l'assure. Pas la Ville, ça reste une réponse.
Mais suite à une victoire possible des libéraux, aimeriez-vous un rôle de ministre?
Moi, je me sens très utile comme député et très capable de faire valoir les intérêts de la région. Il y a du monde qui sont en politique pour être quelqu'un, il y en a d'autres qui sont en politique pour faire quelque chose. Moi, je suis en politique pour faire des choses et je me sens toujours très utile en politique, sinon je serais pas ici devant vous.
En terminant, 2 avril, journée de libération pour les États-Unis, si je me fie aux propos de Donald Trump. À quoi s'attendre ici au Canada? Comment Mark Carney va jouer ses cartes? C'est quoi vos craintes? C'est quoi vos appréhensions?
Honnêtement, si j'avais une réponse pour vous, je serais peut-être à Ottawa en train de la partager avec le reste de l'équipe, mais personne ne sait vraiment ce qui va se passer cet après-midi. Moi, en tout cas, je ne le sais pas. Je n'ai pas l'information, mais c'est sûr que je pense qu'il faut une réponse ferme par rapport aux tarifs, puis il faut un soutien pour nos travailleurs, ce qui a déjà été annoncé par M. Carney. Maintenant, la réalisation, par exemple, dans le plus long terme, c'est de se dire on ne peut plus se fier sur notre voisin du Sud pour être un partenaire commercial fiable. Il faut qu'on diversifie nos exportations, nos échanges commerciaux. Puis, il y a du travail qui a déjà été fait. Il y en a d'autres à faire. Mais je pense que ça nous amène une dose de réalisme au Canada, ce qui se passe en ce moment au sud de la frontière.
Est-ce que l'élection se joue aujourd'hui à l'effet que si Trump recule, Mark Carney va avoir la voie libre comme premier ministre?
Honnêtement, je pense que ultimement, comme on voit à quel point M. Trump est imprévisible, je pense que la question qui anime beaucoup d'électeurs, c'est de se dire le 29 avril, qui je veux comme premier ministre pour naviguer ces turbulences-là? Est-ce qu'on veut Pierre... Puis il y en aura, ce ne sera pas M. Blanchette, là, avec tout le respect que j'ai pour lui, ça va être soit M. Poilievre, soit M. Carney, c'est qui est la meilleure personne? Puis d'un côté, tu as M. Carney qui a navigué le Brexit comme gouverneur de la banque, comme gouverneur de la Banque centrale en Angleterre, qui a navigué la crise financière de 2008 comme gouverneur de la Banque du Canada. Puis si vous parlez aux gens qui étaient en politique provinciale à l'époque, ce que M. Carney a fait pour sauver les investissements de la Caisse de dépôt puis sauver notre système financier, c'est énorme ce qu'il a fait. Donc, il y a toute l'expertise. Puis de l'autre côté, tu as Pierre Poilievre qui... Je veux dire, depuis 3 ans, je le vois à la Chambre des communes, qui boit le Kool-Aid de Donald Trump, qui reprend les mêmes tactiques, la même rhétorique, puis là, qui essaie de s'en dissocier puis de se refaire une virginité. Ça se fait pas comme ça, là. Je pense que le choix pour moi entre ces deux options-là est évident, puis il l'est pour bien du monde. Ça se reflète un peu dans les sondages.
Joël Lightbound, candidat pour le PLC dans Louis Hébert. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce matin.
Hey, c'est moi qui vous remercie. Ça va vite. Je serai resté, mais vous me réinviterez.
Avec plaisir. Absolument. Merci pour la jasette et bonne campagne.
Salut. Merci beaucoup. Red.